Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
VO Afrique, le monde aujourd'hui, Morgane Guiriec et Anne Albertson à Washington. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'armée tchadienne poursuit son déploiement dans le nord du Cameroun pour aider à faire face aux incursions de Boko Haram.
En revanche, à Abuja, on rejette l'idée d'une possible intervention au Nigeria.
Le Nigeria n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Si le Nigeria a besoin de l'assistance, elle fera la demande officiellement.
Le pape François a annoncé hier qu'il se rendrait pour la première fois en Afrique en 2015.
Présidentielle aujourd'hui en Zambie.
L'Union européenne va lancer de nouveaux projets de lutte contre le terrorisme avec les pays musulmans.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama doit prononcer ce soir le discours sur l'état de l'Union.
Dans le journal de la CAN, Ivoiriens, Guinéens, Camerounais et Maliens joueront leur premier match ce mardi.
Mais avant, le journal.
L'armée tchadienne poursuit son déploiement dans le nord du Cameroun pour aider à faire face aux incursions de Boko Haram. Le point avec Eddie Isango.
Le Tchad a annoncé hier vouloir progresser en direction des islamistes nigérians qui avaient enlevé 80 personnes ce week-end dans le nord du Cameroun. Le gouvernement de Yaoundé a assuré que 24 otages ont été libérés sans fournir de détails. Le Tchad a déployé 400 véhicules militaires à Maltane, à l'ouest des Kousséri, près de la frontière. Toutefois, Yaoundé a averti qu'il ne fallait pas s'attendre à une offensive éclair et a insisté sur les besoins de coordination entre les armées. Le président Idriss Déby a clairement affiché sa volonté de reprendre la ville de Baga sur les rives du lac Tchad, tombée les mois derniers aux mains des Boko Haram. En visite à Berlin, le président ghanéen John Dramani Mahama a affirmé que la formation d'une force régionale pour lutter contre Boko Haram sera discutée lors du prochain sommet de l'Union africaine à la fin du mois.
Nous reviendrons sur ce déploiement de l'armée tchadienne dans le nord du Cameroun en seconde partie d'émission avec la réaction du professeur nigérian Ali Bouhari.
À noter également que le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit profondément préoccupé par l'augmentation des attaques de Boko Haram qui menacent la paix et la stabilité de l'Afrique. Dans une déclaration lundi, le Conseil a exhorté les pays de la région à accélérer le projet de mise en place d'une force africaine pour lutter contre les militaires. Le Conseil se félicite par ailleurs de la réunion prévue aujourd'hui à Niamey, la capitale du Niger, pour discuter de la réponse régionale à la menace posée par les djihadistes.
Le pape François a annoncé hier qu'il se rendrait pour la première fois en Afrique en 2015 avec un projet de visite en Centrafrique et en Ouganda, Claire Morin-Gibourg.
Lors d'une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait à Rome après sa visite d'une semaine en Asie, le pape a annoncé le projet d'aller en République centrafricaine et en Ouganda vers la fin de l'année. Ce premier voyage en Afrique a été un peu retardé par l'épidémie d'Ebola, a-t-il expliqué. La République centrafricaine traverse une crise qui a fait des milliers de morts dans des affrontements entre les milices chrétiennes et musulmanes. Le pape François, qui vient de rassembler des foules immenses aux Philippines, a prévu près d'une dizaine de voyages cette année. En juillet, il doit visiter l'Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Le pape doit aussi venir ici aux États-Unis en septembre et n'a pas écarté un voyage au Mexique à un autre moment.
En Centrafrique toujours, l'arrestation du général anti-Balaka Angilo, de son vrai nom Rodrigue Ngaibona, continue de susciter des remous. Plusieurs leaders comme Joseph Bendouga, président du parti MDREC, accusent les forces internationales de s'acharner sur les anti-Balaka et d'ignorer les abus commis par les ex-Seleka.
Présidentielle en Zambie, les électeurs doivent désigner aujourd'hui le successeur de Michael Sata, décédé fin octobre. Le vainqueur sera élu à la majorité simple et prendra la tête du pays jusqu'en septembre 2016, fin du mandat que le défunt président n'a pas pu terminer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite aux récentes attaques meurtrières en France et aux violents affrontements en Belgique, l'Union européenne va lancer de nouveaux projets de lutte contre le terrorisme avec les pays musulmans et intensifier l'échange de renseignements. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'annonce a été faite à l'issue de la rencontre hier à Bruxelles entre les ministres européens des Affaires étrangères et le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El Arabi. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a donné quelques précisions sur la nouvelle initiative.
Nous avons pris une décision au sein du Conseil des affaires étrangères de coordonner d'une manière beaucoup plus active que cela ne l'a été jusqu'à présent. Tout d'abord, avec un partage d'informations, du renseignement, non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi avec d'autres pays autour de nous, à partir de la Méditerranée et du monde arabe, la Turquie, l'Égypte, les pays du Golfe, l'Afrique du Nord, mais aussi avec l'Afrique et l'Asie à un moment donné.
Sur un autre front, les ministres de l'Union européenne ont dit qu'ils allaient interjeter appel d'une décision de justice le mois dernier qui a ôté le groupe islamiste palestinien Hamas de la liste noire de l'Union sur le terrorisme.
Ici à Washington, le président Barack Obama s'apprête à prononcer ce soir le discours traditionnel sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès. Ce discours coïncide avec une vigilance accrue, notamment suite aux récents attentats de Paris.
Conflit en Ukraine, une explosion devant un palais de justice de la ville de Kharkiv a blessé au moins 12 personnes lundi. L'explosion est intervenue juste après le départ de partisans du parti nationaliste ukrainien, dont un membre est en procès.
Retour sur la frappe aérienne menée dimanche par Israël en Syrie. Les forces onusiennes déployées sur le plateau du Golan affirment avoir vu des drones en vol lors de l'attaque. C'est ce qu'indique l'AFP. Cet incident constitue une infraction à l'accord de 1974 entre Israël et la Syrie, estime l'ONU.
Des pays européens accusés de complicité dans les actes de torture perpétrés par la CIA. Amnesty International cite l'implication possible de la Pologne, de la Roumanie, de la Lituanie, du Royaume-Uni, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l'Allemagne. Une centaine de détenus pourraient avoir été emprisonnés dans certains de ces pays. En échange, la CIA aurait versé des millions de dollars. L'ONG les exhorte à rendre des comptes et à traduire en justice les complices.
Rapprochement entre les États-Unis et Cuba, Washington se dit prêt à accélérer l'engagement avec la Havane et à élargir la coopération avec l'île. Annonce qui intervient alors que des parlementaires américains viennent d'achever une visite historique à Cuba. Des discussions de haut niveau sont d'ailleurs prévues mercredi et jeudi à la Havane sur le rétablissement des relations diplomatiques rompues entre les deux pays depuis 1961.
Les médias espionnés par l'agence de surveillance britannique. D'après le quotidien britannique The Guardian, les emails des journalistes travaillant notamment pour la BBC, Le Monde, le New York Times et le Washington Post ont été interceptés. Et le produit brut intérieur mondial ne devrait progresser que de 3,5% en 2015. Tels sont les chiffres du Fonds monétaire international qui a dû revoir à la baisse ses prévisions de croissance économique dans le monde, notamment en zone euro et en Chine, en dépit du coup d'accélérateur donné par la chute des cours du pétrole. On passe au journal de la CAN avec Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. L'Algérie, chahutée, confirme son statut de favori. Ivoiriens, Guinéens, Camerounais et Maliens joueront leur premier match ce mardi. Le groupe C, que certains considèrent comme le groupe de la mort, a donc livré ses premiers enseignements hier à Mongomo. Scénario incroyable entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont ouvert la marque sur pénalty et ont même bénéficié d'un deuxième tir au but qu'ils n'ont pas réussi à transformer. Dominateurs, les Sud-Africains vont connaître une dernière demi-heure cauchemardesque. Les Algériens refont d'abord leur retard grâce à un but contre son camp de Tlatsoyo. Puis Goulam et Slimani permettent aux Fennecs algériens de confirmer leur statut de favori et de remporter ce match 3-1. L'Algérie est donc première de ce groupe ce matin à égalité de points avec le Sénégal. C'est l'autre surprise dans ce groupe. Les Lions de la Teranga ont battu dans les arrêts de jeu le Ghana 2-1. Là encore, un match très offensif. C'est André Ayou qui avait ouvert le score sur pénalty à la 14e minute de jeu pour les Black Stars. Ce score n'a pas découragé les Sénégalais qui ont réussi d'abord à revenir au score grâce à Mambiram Diouf, le joueur de Stoke City. Et au bout de l'effort, Moussa Sow croise sa frappe et trompe Brema, le gardien ghanéen, 2-1. Dernière seconde du temps additionnel, le remplaçant Sow a donc été l'homme du match avec un excellent coaching d'Alain Giresse. À noter aussi que côté ghanéen, c'est Jordan Ayew qui était titulaire en attaque à la place d'Asamoah Gyan. Le capitaine du Ghana, victime d'une crise de paludisme samedi, ne s'était pas entraîné dimanche. Le journal de la CAN sur VOA Afrique, à suivre ce mardi, les rencontres du groupe D à Malabo avec la Côte d'Ivoire contre la Guinée à 16h, temps universel. Le capitaine de la Côte d'Ivoire, Yaya Touré, a déclaré en conférence de presse que c'était désormais à lui de passer le relais et d'offrir son savoir aux plus jeunes, et ce après la retraite internationale de la légende Didier Drogba. Autre réaction recueillie hier à Malabo, celle d'Hervé Renard, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire.
Les 16 coachs qui sont au départ de cette Coupe d'Afrique ont envie d'aller le plus loin possible, de réussir la plus grande performance qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire de remporter le titre suprême. Maintenant, entre les envies et la réalité, parfois, il y a plein de paramètres. Comme on l'a dit précédemment, il y a des équipes qui sont certainement au départ de ces compétitions plus armées que nous, mais puisqu'on est là, il faut qu'on fasse le mieux possible. Déjà, se qualifier pour le quart de finale, c'est la chose la plus importante. Terminer premier de son groupe, c'est aussi quelque chose de capital pour la suite d'une compétition. Et puis après, on verra.
Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Du côté guinéen, Ibrahima Traoré a expliqué que les joueurs du Sili National ont forcément une responsabilité vis-à-vis de la population, et ce en raison du virus Ebola, puisque la Guinée est le seul des trois pays ouest-africains les plus touchés à s'être qualifié pour la CAN. Toujours en conférence de presse hier, écoutons le sélectionneur de la Guinée, Michel Dussuyer.
En permanence sur la compétition et prêt à affronter et à gravir la montagne qui nous attend, parce qu'on sait que ce sera difficile, cette poule est très relevée. Après, il n'est pas question d'être confiant ou pas confiant, il est question d'être déterminé pour la compétition. On sait que c'est une grande équipe que l'on va affronter demain, donc je sais que les joueurs ont à cœur de montrer ce qu'ils sont capables de faire. C'est une question après d'état d'esprit, il faudra qu'on soit déterminé, il faudra qu'on soit aussi rigoureux et concentré, parce qu'on sait que cette équipe a beaucoup de potentiel, notamment sur le plan offensif, qu'à tout moment ils sont capables de créer du danger.
Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Guinée. Choc aujourd'hui à Malabo, Mali Cameroun avec les Lions indomptables retrouvés depuis les éliminatoires. Le sélectionneur du Cameroun, l'Allemand Volker Finke, a assuré que son équipe abordait la CAN avec une autre mentalité. Il n'y a pas de garantie pour l'avenir, mais actuellement, l'équipe est unie et travaille ensemble, a déclaré le technicien. Le Cameroun, l'heure de vérité, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Jamais équipe des Lions indomptables du Cameroun n'a abordé une phase finale de la CAN avec une telle visibilité. À chacune de ses apparitions passées, et quelle que soit la qualité du groupe, ce qu'on appelle les Allemands d'Afrique figuraient toujours parmi les favoris. Mais pour cette édition, qui se joue pratiquement sur leur terre, les Lions laissent dubitatifs la plupart des spécialistes. En effet, après le tourbillon du renouveau qui a soufflé sur et autour de la sélection en moins de 6 mois, tout a presque changé. L'environnement de l'équipe, si nuisible au Lyon, a été assaini et de nouveaux joueurs, jeunes ou en quête de reconnaissance, ont remplacé les habituelles vedettes jugées capricieuses. La concurrence est devenue rude et l'envie de gagner habite de nouveau la tanière. La phase éliminatoire parfaitement négociée a permis d'évaluer cette motivation. Mais cette envie de jouer suffira-t-elle pour réussir une bonne phase finale? La question se pose, car même si le Cameroun a démontré une solidité défensive retrouvée et un jeu en profondeur percutant, bien exploité par des attaquants vifs, il a aussi étalé des insuffisances criantes dans l'animation du jeu offensif en attaque placée, qui peut le desservir si l'équipe venait à être menée. L'issue de la rude bataille physique qui attend les Camerounais face à une équipe malienne aux caractéristiques similaires sera déterminante pour la suite de la compétition. À demain.
Et en bref, Nathan Sinkala, l'un des Chipolopolo de Zambie, a déclaré forfait pour le reste de la compétition après s'être blessé au genou. C'est ce qu'a annoncé hier la fédération zambienne. C'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet www.voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du mardi 20 janvier 2015. Place au dossier du jour. Lutte contre Boko Haram. Les troupes tchadiennes envoyées au Cameroun continuent leur déploiement avant de passer à l'offensive aux côtés des forces camerounaises. Selon les autorités tchadiennes, un des objectifs est de reprendre aux insurgés la ville nigérienne de Baga qui abritait le QG de la force multinationale mise sur pied par le Nigeria et ses voisins. Un objectif mal vu du côté d'Abuja. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur Ali Bouhari de l'université de l'État de Nassarawa à Kefi, près de la capitale nigérienne.
D'après le porte-parole de l'armée nigériane, en l'occurrence le général Chris Olu Konade, le Nigeria n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit de la sous-région ouest africaine. Du coup, il a mis en garde toutes les puissances étrangères, notamment les voisins africains, à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Nigeria. En soulignant que si le Nigeria a besoin de l'assistance, elle fera la demande officiellement.
Mais on a bien l'impression que le Nigeria a besoin d'assistance face à Boko Haram quand on voit la débâcle des troupes nigériennes face à ce groupe armé.
C'est une affaire intérieure qui est très très compliquée, surtout dans le milieu politique et au niveau international aussi. D'un côté, on soupçonne les puissances étrangères par la mainmise des pays voisins comme le Tchad et soutenir les membres de Boko Haram. Et au sein du Nigeria même, on soupçonne certains partis politiques d'être derrière Boko Haram pour pouvoir contrecarrer le pouvoir du gouvernement fédéral dirigé par le président Goodluck Jonathan. Donc, vraiment, le problème de Boko Haram est très, très compliqué au Nigeria. Et cela sera réglé seulement par le changement du paysage politique, par une alternance démocratique.
Comment un pays comme le Tchad soutiendrait-il Boko Haram et en même temps irait en guerre contre ce même groupe?
La politique internationale est très compliquée. Tout est possible avec les Occidentaux. Surtout avec les pays comme la France, le Nigeria n'a pas tellement confiance avec ses voisins francophones. On les soupçonne d'être des marionnettes vis-à-vis de la France. Donc le Nigeria est très prudent avec ses voisins francophones.
Le professeur Ali Bouhari de l'université de l'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au Bénin, tout comme aux États-Unis, le Martin Luther King Day a été commémoré hier. L'ONG Martin Luther King a exposé les idéaux développés par l'apôtre de la non-violence. L'occasion aussi pour le président de l'organisation d'appeler les Béninois à cultiver la paix. Correspondance de Peggy Ludovic Dagba à Cotonou.
L'ONG Martin Luther King, chaque troisième lundi du mois de janvier, commémore l'anniversaire de naissance du docteur Martin Luther King. Pourquoi ce culte voué à l'homme? Réponse de Gilberto Infoli, président de l'ONG Martin Luther King.
En réalité, c'est quelqu'un qui a lutté pour la cause des Noirs. Il a fait que aujourd'hui, les Noirs et les Blancs sont ensemble. Il a aussi œuvré pour la démocratie, les droits civiques. Donc, il a fait pas mal de choses, non seulement aux États-Unis d'Amérique, mais dans le monde entier, parce que c'est lui qui fait aujourd'hui que les Noirs et les Blancs peuvent se retrouver ensemble pour s'asseoir autour d'une même table et discuter, échanger.
La cause défendue par le docteur Luther King n'est pas du tout inconnue des Béninois. Bien au contraire, ils en sont imbibés, comme le démontrent ici Toi Julien Acrobessi et Cosme Mendéon.
Martin Luther King était un homme de paix. Il a œuvré toute sa vie pour une paix durable. Et c'est un exemple à suivre dans le monde entier.
Je profite de l'anniversaire de Martin Luther King pour attirer l'attention de tous les Africains et surtout celle de nous, Béninois, sur ce que notre culture est sérieusement pauvre en ressources démocratiques et que nous devons prendre conscience parce que la démocratie, loin d'être une idéologie, est un idéal de gestion des humains et surtout de tout ce qui relève de l'épanouissement de l'homme.
Chaque année, le président de l'ONG Martin Luther King saisit l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de décès du leader noir américain, prix Nobel de la paix en 1964, pour se prononcer sur l'actualité nationale.
Qui est celui qui n'a jamais commis d'erreur? Quel régime qui n'a jamais commis de faute politique? Tout peut se corriger du jour au lendemain dans l'espoir de mieux faire demain. Nous sommes tous des fautifs. Nous sommes tous des fautifs et nous cherchons toujours des solutions. Dans quel pays? Dans quel ménage? Dans quel foyer n'y a-t-il pas de problème? Lorsque les problèmes arrivent, nous devons chercher des solutions pour amener notre pays à la paix.
Peggy Ludovic Daguar, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président Barack Obama s'apprête à prononcer ce soir à Washington le discours traditionnel sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès. Les précisions de Lionel Gaïman.
Ce discours coïncide avec une vigilance accrue à Washington et ailleurs à la suite des récents incidents violents en Europe à la suite de l'attaque sanglante de Paris contre le magazine Charlie Hebdo. Il y a eu notamment la fusillade en Belgique, des descentes de police en Allemagne, des arrestations en Grèce et de façon générale le renforcement de mesures de sécurité à travers l'Europe. L'analyste Rob Wainwright, directeur d'Europol, une agence de maintien de l'ordre de l'Union européenne, a souligné que les mesures de sécurité doivent coller aux réalités d'une menace qui change constamment. Nous voyons une réponse très déterminée du gouvernement, des autorités policières de nos nations et au niveau des institutions comme Europol, qui passent en revue et d'urgence les moyens de mieux appuyer partout les services de lutte antiterroriste, de partager plus efficacement des renseignements et aussi de suivre le financement du terrorisme, le trafic illicite d'armes à feu et surtout la surveillance des activités terroristes en ligne. Pour le président Obama, qui espère pouvoir travailler avec les républicains qui contrôlent maintenant les deux chambres du Congrès sur un agenda qui inclurait les priorités intérieures, des développements imprévisibles sur le plan international le forcent à accorder une plus grande attention aux questions de sécurité ici même aux États-Unis et à l'étranger. Ce phénomène d'extrémisme violent, cette idéologie, ces réseaux, la capacité de recruter des jeunes gens s'est métastasée et a atteint les communautés à travers le monde. C'est un problème qui pose beaucoup de peine et de tragédie et de destruction, mais un problème que nous finirons par vaincre. Avec les cellules dormantes qui existent, dit-on, dans de nombreux pays et le risque de voir les extrémistes du monde entier faire cause commune après l'incident Charlie Hebdo, l'administration Obama et les autres gouvernements ne se demandent pas s'il y aura une attaque terroriste, mais plutôt quand et où elle sera tentée.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec nous, Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
Le président angolais, José Eduardo dos Santos, était hier à Kinshasa.
Il a rencontré son homologue congolais Joseph Kabila. Les deux hommes devraient signer des accords de coopération, notamment dans le domaine des transports. Et selon l'AFP, cet accord va permettre à la TAAG, la compagnie nationale angolaise, de reprendre les vols entre Luanda et Kinshasa. Les deux chefs d'État devraient aussi discuter du titanesque projet de barrage hydroélectrique Dinga en RDC, conçu pour être le plus grand du monde et devant permettre à Kinshasa de devenir un fournisseur d'électricité dans toute l'Afrique australe.
L'Angola subit de plein fouet la chute du prix de l'or noir et se serre la ceinture.
Oui, le budget du deuxième producteur de pétrole du continent après le Nigeria va être révisé. Selon l'AFP, des mesures d'austérité ont été annoncées qui pourraient alimenter le mécontentement social.
Quant au premier producteur de l'or noir sur le continent, il annonce une diminution du prix de l'essence à la pompe.
Oui, c'est la ministre du pétrole Diezana Alison Madueke qui a fait l'annonce dimanche à un mois des élections présidentielles et législatives. Le Nigeria, qui extrait environ 2 millions de barils de brut par jour, importe paradoxalement la majorité de son carburant car il ne dispose pas de la capacité de raffiner.
Et puis ce cri d'alarme d'Oxfam, les riches de plus en plus riches.
Oui, 1% des personnes les plus riches du monde détiendront la majorité de la richesse mondiale l'année prochaine. C'est la conclusion d'un nouveau rapport de l'ONG Oxfam. Le rapport a été publié ce lundi avant la réunion annuelle du Forum économique mondial cette semaine à Davos, en Suisse.
On termine en musique, la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Morgane. L'artiste JFP, Jean-François Pondézi, se découvre une passion pour la chanson en 1995. Il fait partie d'un groupe de quartier en Martinique et s'initie à l'écriture des textes et à la composition musicale. Il nous a joint de Paris pour nous parler de son single « Collé au Simoine ».
Oui, je vous remercie beaucoup déjà de pouvoir faire passer ce titre-là à Washington. Effectivement, c'est un titre qui a très bien fonctionné dans le monde francophone, mais voilà, on pourrait dire une barrière de plus, enfin des États-Unis, on va dire. Alors, ce titre-là, en fait, c'est un single, et effectivement, là, je suis en pleine préparation de mon 4e album solo, qui devrait être dans les bacs d'ici peu, d'ailleurs.
Ouais.
Et voilà, ce titre-là, en tout cas, le titre Collé aussi moi, est un titre qui est sorti sur plusieurs compiles antillaises, voilà, quoi.
JPF, collé aussi moins. Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie Morgane. Big up à Jude Jean qui nous écoute chaque matin en direct de Port-au-Prince, Haïti.
Roger Muntou peut vous retrouver tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriac au micro et je vous souhaite une excellente journée.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.